Tout de suite donc la revue de presse internationale avec Adrien Toffolet. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Et ce matin, au Brésil comme aux États-Unis, on commente l'arrivée du président justement Jair Bolsonaro hier à Washington. Et à les lire, ce n'est pas seulement la rencontre de deux des hommes forts du continent américain, mais c'est la rencontre de deux mondes que rien n'oppose.
Jair Bolsonaro et Donald Trump ne se sont pas encore vus. Leur rencontre officielle est prévue mardi avec à la clé ce qui est annoncé comme un partenariat fort et de belles signatures de contrat. Le sommet d'extrême droite de Trump et Bolsonaro, titre sans détour le Washington Post, au sujet de la visite de 3 jours du président brésilien aux États-Unis. Il s'agit là effectivement du rendez-vous des deux grands leaders nationalistes des deux plus grandes démocraties de la région, explique le quotidien américain. Deux hommes au parcours et aux idées souvent proches, des disrupteurs radicaux dont le destin est de se rejoindre, de s'entendre. L'entente de deux hommes, l'entente de deux mondes surtout, qui ont convergé hier lors d'un dîner d'honneur organisé par l'ambassadeur du Brésil à Washington. C'est cet épisode qu'on retrouve dans la presse brésilienne ce matin, dîner d'arrivée pour Jair Bolsonaro, un moment qualifié de sainte communion de la droite par le quotidien Folha de São Paulo. Et pour comprendre, il suffit de jeter un œil à la liste des invités à table. À droite du président, plusieurs de ses ministres, justice, économie, agriculture, mais aussi son fils, le député Eduardo Bolsonaro, et le philosophe Olavo de Carvalho, le gourou du bolsonarisme selon le journal. À sa gauche et en face de lui, des penseurs, des universitaires, des hommes d'affaires conservateurs américains. Donald Trump n'est pas là, mais il fallait s'y attendre. L'ancien gourou du président américain et grand inspirateur des populismes dans le monde entier, Steve Bannon, en personne, est là, ravi de rencontrer le président du Brésil qui, selon lui, a bien réussi sa soirée d'arrivée. Dans son discours, Jair Bolsonaro n'a pas eu besoin d'adapter son propos à l'auditoire, rapporte le journal O Globo. Extrait choisi. Le vieux communisme n'a plus sa place dans notre monde. Ou encore, la démocratie et la liberté sont les dénominateurs communs de nos deux nations. Le Washington Post rappelle tout de même qu'au-delà des ressemblances idéologiques de leurs leaders, les deux pays ont également pour point commun d'être balayés par les mêmes questionnements. Les oppositions aux deux hommes, à gauche comme à droite, les enquêtes et les révélations gênantes autour de leur fréquentation ou sur différents sujets de société chauds comme la circulation des armes par exemple. Mercredi dernier, une fusillade dans une école de Sao Paulo a fait 7 morts. Le débat sur la libre circulation des armes au Brésil est relancé.
Et ce même débat, d'ailleurs, touche également la Nouvelle-Zélande suite à l'attaque terroriste dans 2 mosquées du pays.
Effectivement, les journaux du monde entier reviennent ce matin sur cet événement tragique qui a fait 50 morts. À lire, par exemple, sur le site de la BBC, les récits d'héroïsme de ceux qui ont tenté de s'en prendre à l'assaillant Brenton Tarrant. Comme Abdulaziz, 48 ans, originaire d'Afghanistan, qui s'est lancé à la poursuite du tueur avec armé d'un terminal de paiement par carte de crédit qui a récupéré une des armes laissées à terre par le terroriste et qui, selon les témoignages, l'a fait fuir. Le chargeur de son arme en question, le chargeur de l'arme en question était quant à lui vide. Ou encore Naïm Rachid, raconte Al Jazeera. Il avait 49 ans, d'origine pakistanaise. Il a tenté de se jeter sur le tueur, mais celui-ci l'a battu. Le Premier ministre Imran Khan a décidé qu'un hommage national lui serait rendu. D'autres journaux racontent le recueillement et les cérémonies organisées hier à Christchurch, les témoignages de soutien entre communautés, les nombreux AK qui ont résonné sur les lieux du drame en hommage aux victimes. C'était aussi un moment fort pour la Première ministre. Elle a eu les bons mots, les bons gestes pour le Süddeutsche Zeitung. La communauté musulmane, peut-on lire, a reçu l'expression de respect la plus claire. Jacinda Ardern est allée à la rencontre des familles, des victimes. Elle leur a parlé, elle les a pris dans ses bras, elle a pleuré avec eux, avec un hijab sur la tête. Les photos de ce moment fort, nous dit El País, témoignent de l'empathie de la chef du gouvernement néo-zélandais au moment où le pays perd son innocence. De quoi renforcer également la Jacinda Mania, comme on dit, la cote de popularité déjà très haute de la dirigeante. Mais donc ce matin, comme nous le disions avant, il est beaucoup question du contrôle des armes et du moment charnière que constitue cette tragédie pour renforcer la législation sur la circulation des armes militaires, des fusils d'assaut, comme ceux justement utilisés par le tireur. Moment charnière, comme le précise CNN, car c'est lors d'événements de ce type que l'opinion publique est la plus favorable à un durcissement. Brenton Tarrant possède un permis de catégorie A qui l'autorisait à acheter des armes semi-automatiques, à les détenir. Lui-même faisait partie d'un club de tir, le Bruce Rifle Club, institution qui d'ailleurs accuse le coup ce matin, raconte le New Zealand Herald. Le terroriste avait l'habitude d'y aller s'entraîner au fusil mitrailleur. Le club a décidé hier de fermer les stands prévus à cet effet. Son patron même laisse entendre qu'ils resteront à jamais fermés. Le journal en ligne Stuff, journal néo-zélandais, pose d'ailleurs une question majeure quand ce type de débat est ouvert partout dans le monde. Pourquoi des civils auraient besoin d'armes militaires? En Nouvelle-Zélande, la législation est particulièrement laxiste au sujet des armes, quasiment aucun contrôle. Il n'existe même pas de registre national permettant de les répertorier. À plusieurs reprises, en 2005, 2012 et 2017, l'exécutif a tenté de légiférer sans succès. Ça n'a jamais été vraiment une priorité, apprend-on. Le taux de criminalité est faible dans le pays, tout comme le nombre de morts causées par armes à feu. Dans le New Zealand Herald, le patron de la police nationale soulève tout de même l'incohérence suivante. Brenton Tarrant, d'origine australienne, n'aurait jamais pu mettre la main sur ses armes s'il avait tenté de le faire dans son pays, l'Australie. En Australie, c'est en 1996 que la loi a été renforcée. Les 28 et 29 avril, 35 personnes perdent la vie dans la tuerie de Port Arthur, en Tasmanie. Un événement qui a poussé au durcissement des règles autour de la circulation des armes. La presse du monde entier s'accorde à dire ce matin que pour la Nouvelle-Zélande, le moment est également venu. Notre législation sur les armes va changer, a dit ce week-end la Première ministre. On parle déjà ce matin d'un projet de loi dans les 10 jours.